Là, on a des produits désuets, l'entrepôt est plein, il y a des gens qui s'en vont, la banque commence à s'inquiéter, la marge de crédit, les limites commencent à baisser. Puis là, la tempête est commencée, là. Alors, le marché... Et là, on subit en même temps, ce qui a été le début de la catastrophe, deux clients qui font faillite.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 129e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. J'ai l'immense privilège aujourd'hui de vous livrer ce qui, selon moi, est à ce jour le meilleur entretien fait sur le podcast Hypercroissance. Il y a quelques mois de cela, j'ai eu la chance d'être mis en contact avec Louis Garneau, le célèbre homme d'affaires fondateur de Louis Garneau Sport. Monsieur Garneau venait de sortir son dernier livre et je me suis dit pourquoi ne pas entendre son histoire sur le podcast. J'ai donc acheté son bouquin et je l'ai lu en moins de 3 jours dans mon récent voyage en Europe. Pour être honnête avec vous, le livre est totalement fascinant. En l'espace d'un peu plus de 200 pages, on arrive à découvrir 36 ans de bonheur pour l'entreprise Louis Garneau Sport et 36 mois de malheur dans lesquels l'organisation est passée à 2 doigts de fermer ses portes. Monsieur Garneau est donc venu partager son histoire aujourd'hui, retraçant près de 40 ans de carrière assez impressionnante. Sans plus attendre, ma discussion avec Louis Garneau. Louis Garneau, vous êtes le président et fondateur de l'entreprise Louis Garneau Sport, un leader mondial dans la confection de vêtements de sport. Fondée en 1983, votre entreprise a connu 36 ans de croissance forte et dernièrement 36 mois plus complexes qui vous ont poussé à écrire un livre intitulé « J'ai tombé 2 fois ». Ce sera d'ailleurs le sujet principal de notre discussion du jour. Monsieur Garneau, au nom de toute l'équipe du podcast Hypercroissance, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Antoine, ça me fait plaisir. Et directement du Vermont, alors sur notre filiale américaine qui a été ouverte à peu près dans les années 85, un an après que j'ai ouvert ou deux à Québec en 1983.
Fantastique. Bien, je suis très heureux de vous avoir avec nous des États-Unis aujourd'hui. Et M. Garneau, comme mentionné un petit peu plus tôt en introduction, vous avez lancé un livre il y a quelques mois que j'ai eu la chance de lire dans les derniers jours. Un livre assez profond dans lequel vous expliquez l'histoire de votre entreprise, mais également la vôtre. On peut s'en rendre compte à l'intérieur du bouquin que vous et votre entreprise, vous êtes intimement liés. Et avant de discuter précisément du livre, pouvez-vous partager avec nous aujourd'hui ce qui vous a poussé à l'écrire en premier lieu?
C'est une bonne question parce qu'il y a des gens qui me disaient « Fais pas ça ». Écoutez, j'ai vécu des problèmes. Les problèmes ont été publics. Je voulais aussi donner leur juste. Je voulais raconter la vraie histoire parce que souvent, quand on raconte pas l'histoire, les gens fabriquent l'histoire pour vous. Et c'est un livre qui est en français, qui ne sera pas édité en anglais, parce que c'est une espèce de confession avec la population du Québec. Le Québec a été mes premiers clients, et j'ai trouvé ça important de raconter l'histoire. Puis, si je regarde aussi, c'était peut-être une thérapie en même temps, de l'écrire avec une personne de qualité qui s'appelle Valérie Lesage, qui a une plume romancière, et j'avais le goût d'expliquer et de premièrement, pas juste de raconter une histoire, mais que les ventes, parce que je suis un entrepreneur, hein, j'essaie tout le temps de faire une vente quelque part, alors que les ventes pourraient aider les entrepreneurs, dont les profits vont aller à l'école de Beauce, l'école entrepreneuriale. Et mon fils William a été là, donc je respecte beaucoup cette école-là. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je trouvais que c'est une confession intime avec les Québécois en français. Et j'ai pas de regrets, parce que des fois, quelques mois après, on pourrait dire, as-tu des regrets? Non, j'ai pas de regrets. Je veux dire, ça, à 63 ans, je pouvais me permettre de le faire. Je suis pas un garçon de 30 ans qui a une image à protéger, qui veut montrer, contrôler son image. J'ai embarqué parce que j'ai ouvert des portes que beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas ouvrir. La porte de l'échec, la porte de la discorde familiale, la porte du burn-out, la porte de la non-réussite, alors que on pourrait dire que les hommes d'affaires sont des hommes extrêmement orgueilleux. La preuve, j'en suis un, et j'ai été athlète olympique, et je pense que les hommes d'affaires sont plus orgueilleux que les athlètes. Les athlètes, ils ont un petit côté naïf, et on parle beaucoup moins d'argent chez les athlètes, alors que lorsqu'on parle d'un homme d'affaires de l'argent, du pouvoir, de son image, du milieu, parce que le milieu des affaires, ça se pète les bretelles un peu aussi en même temps.
Bien sûr.
Et, mais j'ai ouvert une porte qui est énorme sur la maladie mentale, sur le burn-out, sur ce qu'on peut appeler la dépression. Ça a l'air que c'est un burn-out que j'ai fait, une autre dépression, mais on rentrera pas là-dedans, mais...
Bon, on va en parler un petit peu plus tard parce que...
Oui, on va rentrer là-dedans, là, dans le burn-out, parce que c'est des choses qui arrivent autant chez les athlètes. Les performeurs sont sujets à, comme on dit, à péter à frette en québécois à un moment donné. Puis, anyway, moi, je me suis pensé à un moment donné, ce tout-puissant, qui m'arrivera rien, tout ce que je fais, ça se transforme en succès, puis tu finis par croire un petit peu à tout ça, puis c'est le danger. Donc, je montre dans le livre qu'on est vulnérable comme être humain, comme entrepreneur, comme personne, et ça peut vous arriver un jeudi 3h15 dans votre bureau.
Et on va inviter l'audience d'Hypercroissance aujourd'hui à aller lire, aller acheter le livre que, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai lu et j'ai trouvé totalement fantastique. On va rentrer un petit peu dans l'histoire de votre histoire et l'histoire de votre entreprise parce que, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est intimement lié. Donc, on va revenir un petit peu dans le passé, M. Garneau, et votre entreprise a été fondée en 1983 au même moment où vous étiez encore un cycliste de haut niveau. Et votre épouse Monique vous a aidé à lancer l'organisation au début des années 80 et c'est même, on l'apprend dans le livre, grâce à son salaire d'infirmière que vous avez été capable d'avancer lors des premières années. Pouvez-vous, M. Garneau, nous ramener au début de votre organisation afin de bien situer l'audience? Comment ça s'est fait? Comment était la dynamique peut-être avec votre épouse? Je suis curieux de vous entendre là-dessus.
Alors, peut-être pour situer un peu nos auditeurs, j'ai été un cycliste de 1971 à 1984. J'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans aussi, juste faire une petite parenthèse. Je vendais des journaux à Sainte-Foy, à l'arrière de l'église, lorsque l'église était très populaire, le catholicisme. Alors, j'ai vendu pendant 5 ans des journaux qui commençaient, à l'époque c'était 10 sous, puis ça finit à 25 sous, je me faisais quelques dollars. Mon père m'aidait, c'était ma première expérience d'affaires. Lorsque j'ai commencé à courir dans les années 71, parce que j'ai couru de 1971 à 84, les dernières années, je prêtais ma run de journaux, comme on dit, à un de mes chums. Puis vu que j'étais propriétaire du journal de la vente, je lui donnais la moitié, puis je lui dis « donne-moi la moitié » parce que c'est moi qui est propriétaire en fin de compte, de ce petit commerce-là. Puis ça faisait son affaire. Je me rappelle du nom, il s'appelait Roger à l'époque. J'avais commencé un peu à être un petit homme d'affaires, à être rusé, puis en même temps à protéger l'acquis de l'argent. Donc, c'était un peu comme des royautés. Aujourd'hui, on a des royautés avec, bien entendu, la marque, avec une compagnie japonaise. Mais pour faire une histoire courte, j'étudie au Collège des Jésuites. Je suis un étudiant normal. Je ne suis pas le plus sportif de l'école, même au primaire. Et je me découvre athlète. À un moment donné, un ami m'invite à une course de vélo dans les années 71. Et l'entraîneur nous invite, l'organisateur, à participer. Je participe dans la course. Et j'ai fini avant-dernier. Et j'étais content parce que j'étais pas le dernier. J'avais battu un garçon plus gros, plus grand, plus fort que moi, en tout cas sur l'allure. Et on courait à l'époque pas de casque, des jeans avec mes pumas, puis avec des clips là, pour tenir les pantalons qui étaient style pattes d'éléphant. Donc, j'ai aimé ça j'ai poursuivi et l'aventure a duré jusqu'en 1984. Et à ce moment-là, j'ai appris plein de choses. Je me suis rendu compte que aussi, un athlète, je savais pas c'était quoi, là, mais un athlète, c'est quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui s'entraîne, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices, c'est quelqu'un qui apprend à travailler en équipe, qui apprend aussi à souffrir. La douleur physique, même psychologique, c'est quelque chose que j'ai appris. Et ben, ça m'a servi en passant comme homme d'affaires. Après ça, quand je suis devenu un homme d'affaires, ben, juste avant peut-être de dire, j'ai fait des études universitaires, j'aimais pas l'école. Ceux qui m'écoutent, là, il fallait que ça m'intéresse beaucoup. J'ai essayé de savoir pourquoi j'étais distrait à l'école, pourquoi je m'intéressais à 1000 affaires en même temps, pourquoi que mon cerveau, on dit qu'un cerveau normal d'un être humain a 6200 pensées dans une journée, ben moi j'ai l'impression d'en avoir 12400. Et j'ai été diagnostiqué comme un peu hyperactif, déficit d'attention. Et c'est pas grave, je voulais le savoir parce que dans ma famille, j'en ai deux sur trois de mes enfants qui ont un peu... j'en ai un qui est devenu entrepreneur. Donc, faites attention, ceux qui nous écoutent, les parents, des fois, vous pouvez être découragé avec vos enfants. C'est une qualité souvent d'un entrepreneur, le déficit d'attention, parce que c'est quelqu'un qui a un cerveau qui est très, très, très rapide, qui pense à 10 affaires en même temps et qui a le goût de faire 10 projets en même temps. Justement, je parlais avec Ricardo, qui fait des magazines sur la cuisine, des émissions de télévision, puis on est à peu près le même profil. On a eu une bonne discussion hier sur les affaires. Donc, lui aussi de ce type-là. Je voulais gagner ma vie quand j'ai dit à un moment que je voulais faire les arts plastiques à l'Université Laval en 81. Elle était très découragée. Elle avait gardé son argent pour que je fasse des études aux jésuites, que je devienne avocat. Mon père était policier, donc je devenais une espèce de policier plus en droit criminel. Ça plaisait à tout le monde, mais quand je suis arrivé au cégep, j'ai changé de branche, j'ai pas aimé, j'ai remplacé un cours de calcul différentiel intégral par un cours d'art plastique et c'est là que j'ai décidé d'aller à l'université. Donc, alors 1980, je devais rentrer, c'était l'année des Jeux olympiques de Moscou, je me prépare pour les Jeux de Moscou, je suis sélectionné, oups, on fait le boycott, donc je reste à la maison et là je dis ok, on recommence. Alors, comme entrepreneur, comme athlète, on est habitué des fois de dire « OK, on essuie, on recommence, ça n'a pas marché. » J'ai refait le cycle olympique pour arriver en 84 d'être choisi. Et j'ai étudié de 81 à 83 à l'Université Laval en arts plastiques. C'est la période que j'ai aimé le plus, que j'ai performé le plus. J'étais dans mon élément et c'est excessivement important pour un enfant ou encore quelqu'un dans son organisation de se trouver comme être humain, de se trouver à la bonne place. Et j'ai eu des bourses de l'université et depuis ce temps-là, c'est moi qui donne la bourse Louis Garneau, meilleur étudiant. Donc, il fallait que je démarque quelque chose. Ma mère a dit « tu gagneras pas ta vie avec ça », elle avait raison. Et j'ai dit à Monique, je pense que je vais démarrer une entreprise de vêtements cyclistes parce qu'à l'époque, quand j'étais à l'université, j'avais une fabrique de meubles dans mon garage. Je m'entraînais, je rénovais une vieille maison que je m'étais achetée. Donc, c'est ça un entrepreneur. Ça, comme on dit, quoi, ça drive 5, 8, 10 projets en même temps, sans arrêt, sans dormir. Je m'entraînais la nuit, des fois, l'année pré-olympique. J'avais tellement de commandes de menuiserie, de meubles, que souvent, il m'arrivait de m'entraîner la nuit dans les périodes de rush avant Noël. Et je dormais pas, c'était pas grave. J'ai fini le premier dans ma division en arts plastiques. Et tout était beau, je gagnais les courses. Et finalement, je fais les Jeux olympiques, je tombe. Je finis 33e sur 163, Steve Bauer finit deuxième, et ben, ma carrière s'est terminée comme ça. Puis là, j'avais hâte de faire d'autres choses. J'avais juste le goût de connaître les affaires.
Puis, on va en parler un peu de ça, parce que l'entreprise a été fondée en 1983. Et bon, vous l'avez dit, vous avez fait les Jeux olympiques en 1984 à Los Angeles. Et c'est ça, c'est une vilaine chute qui est arrivée et qui, malheureusement, finalement, vous avez terminé 33e. Ma question, M. Garneau, est la suivante. Votre entreprise était déjà lancée. Vous étiez athlète au même moment. Être athlète professionnel, c'est un job à temps plein. être entrepreneur, c'est un job à temps plein. Comment qu'on combine les deux en même temps? Bien entendu, ça l'a pas été pendant tellement longtemps, mais tout de même, ça l'a été une dynamique que vous avez faite pendant une ou deux années certainement, là.
Ça a été très, 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 très difficile. J'ai la dernière année de m'entraîner, de démarrer l'entreprise, de vouloir me marier, de toute la pression de dire « je vais changer ma vie ». J'ai travaillé vraiment, il fallait que je sois en forme pour passer à travers tout ça. Puis, j'ai été chanceux de faire la sélection olympique. Il a fallu que je gagne des courses, il a fallu que je gagne des points dans le système de Cycling Canada. Et je pense que c'est ma détermination aussi que je voulais. Mais j'avais pas peur de l'échec, j'avais pas peur de tout ce qui pouvait arriver. Tu sais, vous savez, vous avez beau prévoir tout ce que vous pensez dans votre carrière, tomber aux Jeux olympiques ou tomber en affaires, ça peut arriver. Tomber avec sa santé, ça peut arriver. Tomber dans sa vie sentimentale, ça peut arriver. Alors, je veux dire, je suis pas un peu heureux, je suis quelqu'un de rêveur, un peu naïf des fois, mais je me dis, je vais aller en avant, je vais. C'est comme jouer au hockey. J'ai joué un peu au hockey, mais si tu lances pas sur le gardien, tu risques de pas compter de but. Donc, faut que tu te projettes, faut que tu attaques, faut que tu sois toujours au-devant de la mêlée. Puis, c'est assez surprenant, comme entrepreneur, assez surprenant que de lancer des attaques, ça te permet de contrôler ton champ d'expertise, ça te permet de contrôler ton milieu. Et au lieu d'être derrière le peloton puis de subir ce que les autres vont faire. Donc, j'ai pris une position de leadership assez rapidement. J'ai appris à gagner. À 12 ans, l'entraîneur ne nous a pas dit l'important, c'est de gagner, c'est de participer. À l'époque, on nous disait, on fait une sélection fin de semaine. Ceux qui arrivent, si vous n'arrivez pas dans les trois premiers en haut de la côte de Cap-Rouge, vous n'allez pas aux courses provinciales. Puis c'était la bataille entre les amis dans le club. Donc, je me suis rendu compte que ça dépendait beaucoup de toi, ça dépendait de ta capacité à endurer la douleur, ta capacité à souffrir, puis à résister à des petits stress qui sont psychologiques comme ça. Donc, toute la carrière, on parle beaucoup de vélo, là, mais toute la carrière de vélo m'a servi beaucoup à je vous dirais, en affaires, à répéter les mêmes choses, avoir une bonne équipe, d'être stratégique, de travailler beaucoup, d'avoir beaucoup de résilience, d'accepter l'échec. Je disais souvent en conférence, j'ai gagné 500 courses, puis je faisais mon grand sourire, mon pense-bon, mais je disais quelques secondes après, j'en ai perdu... j'ai gagné 150 courses, mais j'en ai perdu 500. C'est important de perdre. Perdre fait partie du mécanisme de la victoire. Et c'est pas vrai que tous ceux qui ont été des grands champions ont jamais eu l'échec. L'échec est souvent caché dans des biographies, dans des livres. Mais on en bave un coup avant de réussir.
Puis parlons-en un petit peu maintenant de cette réussite-là, parce que le terme est bon à choisir. On va parler du volet affaires maintenant. Si on lit bien le livre et qu'on regarde vos chiffres, on peut dire que les choses sont allées assez vite. Deux ans seulement après le lancement de Louis Garneau Sport, vous atteignez la barre du million de chiffre d'affaires annuel. Cinq ans après le lancement, donc pour situer l'audience, on est rendu en 1988 ici, vous atteignez 2 millions de chiffre d'affaires. À ce moment, bon, peut-être que les dates vont être à confirmer, vous décidez d'ouvrir aux États-Unis, vous franchissez le quart de million de ventes lors de la première année d'exploitation au sud de la frontière. À quoi attribuez-vous une prise de marché aussi rapide, M. Garneau? Étiez-vous le seul joueur à l'époque dans votre catégorie? Ou peut-être qu'il y avait d'autres facteurs qui influençaient ces ventes, cette croissance-là?
C'est une bonne question. À l'époque, on était dans un marché assez vierge. C'est important, je le dis souvent à des entrepreneurs, si tu arrives le 50e dans un marché, tu vas voir qu'il ne reste pas beaucoup de place. Mais d'être capable de sentir, c'est comme lorsqu'on était coureur, de sentir l'échappée. Il y a des coureurs qui partent, c'est le temps d'y aller. Et je disais à Monique, non, à l'époque, OK, tu ne veux pas faire de meubles, tu ne veux pas prendre la relève pendant que je m'entraîne pour les Jeux olympiques en 83, 84. Et j'ai dit, si on faisait des vêtements cyclistes. Alors déjà là, je lui disais, les vêtements cyclistes, ça vient d'Europe, il n'y en a pas au Canada. On est dans un marché vierge et il y a une opportunité d'affaires. Alors, ça s'appelle opportunité d'affaires. Et après ça, on a été souvent premier. C'est important ce qu'on dit, là. Premier à faire les vêtements cyclistes au Canada, premier à faire la technologie d'impression par sublimation en 1984, 586, une technologie italienne. Premier à importer cette technologie-là au Canada et aux États-Unis. Premier à faire des casques de vélo au Canada en 1989. Premier à faire des vélos coordonnés à des vêtements et à tous les accessoires. On était la première compagnie au monde à prendre un brand et à le mettre sur plusieurs produits alors que des gens disaient que j'étais pas crédible. Aujourd'hui, des marques comme Specialized Trek ont carrément copié le concept. Nous, on appelait ça la solution cycliste, Louis Garneau. Après ça, on a été la première compagnie à faire des accessoires, comme je disais, avec des vêtements cyclistes. Et après ça, c'était le monde de l'innovation. On a inventé, à un moment donné, on a été nommé le meilleur casque au monde par l'université de Aachen en Allemagne. Et là, on se rend compte que j'ai une attitude de champion ou de coureur cycliste, de compétiteur. Je veux gagner les concours. Et j'ai appliqué aussi à toutes sortes de concours, Chambre de commerce, les Fidéides, Prix en Affaires Canada, les Mercuriades, etc., etc. Je suis devenu membre de l'Ordre du Canada, membre de l'Ordre du Québec. J'ai fait des dons, j'ai aidé des œuvres de charité, j'ai essayé de me classer comme un bon citoyen. J'ai gagné, j'ai redonné. Alors, je me suis embarqué et oui, j'aime gagner, c'est une évidence. Et quand tu es le leader, la source d'une organisation, si tu es un low profile, ben, des fois, c'est difficile de demander aux gens d'être plus gagnants que toi. Ça prend un chef, quelqu'un qui amène la gang, dire « on va conquérir le monde ». Je suis pas sûr qu'une organisation seule peut se lever et dire « on va conquérir le monde » si tu n'as jamais voyagé de ta vie. Alors, j'ai vendu ça à mon équipe. On veut devenir les meilleurs, on veut la meilleure équipe, on veut conquérir le monde et faire affaire dans 40 pays comme on fait présentement, ben c'est encore l'héritage du vélo. J'ai couru dans 40 pays. Pour moi, la planète est petite. De me déplacer, d'être aujourd'hui au Vermont et vous êtes à Paris, je trouve ça absolument normal. Et je serai en Floride dans 2 semaines. Je suis en train de partir un club là-bas. Cet été, j'ai des rendez-vous sur la France, à différents événements internationaux. Donc, je suis encore le cycliste dans ma tête, mais avec un corps de 63 ans. Et c'est des bons attributs en passant qui me servent encore.
Fantastique. Puis, on a parlé un petit peu de ce qui s'est passé dans les années 80 avec votre entreprise, mais on dirait que le succès a continué à vous suivre et à une vitesse grand V. Donc, dans les années 90, on pourrait considérer que cette décennie-là était assez faste pour votre organisation. À l'approche des années 2000, vous détenez, et je le dis bien, près de 50%, voire peut-être plus de 50% des parts de marché des casques, vélos et tenues de ski au Canada. Votre organisation génère à ce moment des ventes de 35 millions de dollars à l'année. Comment on se sent à ce moment-là? Est-ce qu'on se sent un petit peu impossible à arrêter, invincible, que tout ce qu'on va toucher va devenir de l'or? J'aimerais vous entendre un petit peu comment vous vous sentiez à ce moment-là.
C'est sûr que ça devient très motivant. C'est un peu comme un athlète qui gagne le Tour de France, il veut gagner le Tour d'Italie, il veut gagner le championnat du monde, il veut gagner Paris-Roubaix. C'est une sensation qui est extraordinaire de gagner, autant en vélo qu'en affaires, et tu veux répéter ça. Tu veux répéter la sensation que ça te donne. Quand tu es dans la business, par exemple, tu te rends pas compte de tout ça, là. Ça devient un mode de vie. Et quand j'étais athlète, puis j'étais athlète olympique, c'était difficile de trouver, je me trouvais pas si bon que ça, je trouvais ça normal. Tout le monde disait, oh, ben, tu fais des sacrifices extraordinaires, c'est incroyable, tu t'entraînes. Oui, mais on faisait juste ça. Alors, c'est comme quand tu as le talent, puis tu t'entraînes, ben, des fois je me dis, tu n'as pas tant de mérite que ça. Je veux dire, je trouve ça plus dur être un homme d'affaires qu'être un athlète à temps plein, parce qu'être un homme d'affaires à temps plein, ça n'arrête pas. Des fois, bien ça dure 24 heures une journée. T'as pas dormi, t'amènes tes problèmes. Alors que s'entraîner, c'est peut-être des fois 3 heures par jour, 4 heures et c'est fini, c'est le repos. Ça dépend comment tu vois ça. Moi, j'ai fait les deux. Je suis très content d'avoir fait les deux. Mais le domaine des affaires est vraiment intéressant. C'est d'autres choses. C'est moins physique. Mais c'est quelque chose qui est enivrant aussi en même temps. Alors, de succès à succès, c'est sûr qu'une entreprise qui ne réussit pas à gagner, à un moment donné, tu vas finir par toi-même te décourager ou ton banquier va te cogner sur l'épaule. Il va dire, tu serais peut-être mieux de faire d'autres choses, mon jeune homme, parce que j'enlève ta marge de crédit. Donc, alors j'ai continué, puis je me suis rendu compte que le succès de l'entreprise, jour 1, était basé sur l'innovation. Un excellent produit avec beaucoup d'innovation, puis d'essayer d'être le premier dans un domaine, premier à faire des casques de telle façon, premier à faire des cuissards avec plus de couleurs que la compétition, premier à faire des maillots imprimés par la technologie de la sublimation, premier à faire des souliers avec un système biomécanique à l'intérieur breveté. Donc, c'est là qu'on se démarque. Tout le côté artistique, toute ma formation, tout ma capacité à inventer, je la mets à profit. Et quand j'ai l'entreprise, on en parlera plus tard, mais quand l'entreprise a moins bien été, c'est qu'à un moment donné, je me suis éloigné de ce que je faisais bien et ça arrive de se perdre. Les entrepreneurs peuvent se perdre, on peut se perdre dans une carrière artistique, on peut se perdre dans une carrière sportive. Et à un moment donné, je me suis perdu, puis il est arrivé des choses qui sont vraiment effrayantes.
Puis on va en parler de tout ça dans quelques minutes. Mais avant de ça, j'aimerais qu'on continue un petit peu dans le temps. Et on arrive en 2008 et il y a un événement tragique qui survient dans votre vie, ou plutôt celle de votre entourage, M. Garneau. Le meilleur ami de votre fils est retrouvé mort de froid, au moment où il faisait une course à l'extérieur. Plusieurs jours ont été nécessaires avant de retrouver le corps de l'enfant. Et à ce même moment, vous devenez croyant. Pouvez-vous nous ramener à ce moment de votre vie, nous expliquer comment ces événements, aussi tragiques soient-ils, vous ont poussé à changer et à voir les choses différemment?
Alors, c'est une histoire qui pourrait prendre beaucoup de temps. Là. Je vais essayer de la faire assez courte parce que c'est une partie de ma vie. J'ai toujours été croyant. C'est sûr qu'on pratique moins qu'on pratiquait dans les années 60. Là. Mais je vais vous raconter l'histoire en quelques minutes. Alors, Alexandre Morin, qui est le meilleur ami de William, mon fils, les deux se préparaient pour un camp d'entraînement, aller en Europe, alors que les deux garçons sont de très bons amis depuis le primaire, sont au secondaire et ils préparent dans la semaine de relâche un camp d'entraînement en France. Alexandre s'entraînait par lui-même, William aussi, puis à un moment donné, Alexandre est allé s'entraîner près de la falaise de Sillery. Il s'est aventuré trop proche le soir d'une tempête qui était le 14 février, je vais m'en rappeler toute ma vie, c'est le soir de la Saint-Valentin, et il est tombé. Alors, il est tombé, puis près du garage municipal, et sa mère a appelé William. On a fait des recherches toute la nuit. William voulait aller l'aider la nuit. Moi, j'ai dit non, c'est ton père qui va faire ça. Je vais aller voir la famille Morin. Et on n'a pas réussi à le trouver. On a eu, le lendemain matin, les policiers se sont organisés. J'ai passé une nuit blanche au complet j'ai été me reposer à la maison. J'ai commencé à avoir des appels. Et riez pas quand vous allez m'entendre. J'avais des appels de des médiums. C'est des gens qui travaillent souvent et 90% avec la police et tout ça, c'est secret. Puis ces médiums-là me disaient qu'ils savaient où Alexandre Morin était et qu'il fallait le retrouver, puis qu'Alexandre se servait de moi comme médium. La personne disait ça pour communiquer avec toi, Louis Garneau, parce que tu es une personne connue, puis tu as du leadership et tu vas aider à me retrouver parce qu'Alexandre, selon les médiums, que personne connaissait au départ, disait qu'il fallait le retrouver parce que sa mère était dans un état incroyable et ses parents aussi. Alors, on a fait des recherches. Écoutez, un soir, on arrive le vendredi soir, j'avais fait un appel à tous avec Radio-Canada vers 3 heures et les différents médias, puis j'avais demandé à tout le monde, toute la population de Québec, on va faire une battue, on va essayer de trouver Alexandre de façon collective le samedi matin. Après ça, j'ai été à l'école de Jésus-Marie où il y avait un genre de quartier général. Et ce soir-là, il y a une jeune dame qui s'est approchée de moi, tout petite, avec un manteau de sport, une personne très normale. Et la personne m'a dit « Bonsoir, M. Garteau, c'est moi Anne-Marie, la médium. » Et elle a dit « Je veux vous aider parce que je sais où est Alexandre Morin. » Alors, c'est une histoire un peu folle que vous allez dire. Sauf qu'au même moment, le père Boulay, qui était directeur général du séminaire Saint-François, passait. Puis J'ai été voir le père, puis j'ai dit à quelqu'un qui vit ça, je écoute Pierre Boulet, je suis pas dans un bon état. Écoute, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça fait pas sérieux. Ben, il dit, on n'a rien à perdre. Alors, on est allé dans une classe, c'est drôle, on a communiqué avec les deux médiums, c'était deux sœurs, Pierre Boulet et moi, autour d'une petite table. Puis, par l'entremise des médiums, Alexandre nous a parlé. C'est fou, je vous raconte ça là, sur un podcast, mais anyway, c'est une histoire vraie. Une sœur faisait l'écriture automatique, l'autre parlait, c'était beaucoup en parabole. Je pense que j'ai encore le texte et on nous a décrit exactement. Alexandre nous parlait en décrivant l'accident qu'il fallait le retrouver, qui avait été téméraire, qui était tombé dans une falaise, qui avait senti le coup sur la tête et il avait senti aussi. Puis il nous raconte à un moment donné le passage, il choisit de partir et c'est là qu'il y a la phrase célèbre que j'ai mis sur un mur d'une petite chapelle que j'ai fait chez moi. Il a dit que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau et Alexandre est parti. À minuit 5, parce qu'il y avait une montre en passant polar quand on l'a retrouvé. Et on a eu toutes ces indications-là de son rythme cardiaque et l'arrêt, tout ça. Anyway, pour toutes ces... C'est une histoire que je pourrais raconter très, très longuement, mais le lendemain, on a réussi à retrouver Alexandre, une médium, qui a eu la chance de le trouver, de mettre sa main carrément dans un banc de neige, puis de le sortir de là comme si elle avait eu la réponse avant les policiers. Père Boulet et moi, on est restés des gens très croyants. On en a parlé jusqu'à sa mort. Malheureusement, le père est décédé du cancer. Et on se rencontrait une fois par année d'une rencontre très spéciale le vendredi avant Noël. Puis on parlait de notre expérience, on parlait de la vie après la mort. Et moi, chanceux, j'ai eu une expérience comme ça et j'y crois. Puis ça a été basé sur des choses, des faits qui sont très véridiques. Mais ça m'a donné la foi et je continue à croire aussi aujourd'hui que peut-être différent de ce que la religion catholique a bâti avec son ministère et un peu sa politique. Mais je suis un homme croyant, si on fait le résumé de l'histoire, et ça me donne espoir, même dans la vie à passer.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours. Puis, M. Garneau, arrive ensuite le début des années 2010, où selon vos dires à l'intérieur du livre, débute un petit peu le déclin de votre empire. Vous racontiez qu'à ce moment, vous tombez un peu sur le pilote automatique avec votre organisation. Vous déléguez d'ailleurs une bonne partie de la gestion quotidienne de l'entreprise à certains collaborateurs. Une d'entre elles, nommée Béatrice, nom fictif que vous lui donnez à l'intérieur du livre, semble amener l'entité vers la mauvaise direction. Qu'est-ce qui vous a poussé à fermer les yeux sur plusieurs aspects de votre entreprise à ce moment?
C'est une bonne question encore. Écoutez, je vous dirais on pourrait parler que vers 2015-2016, on a commencé à perdre de l'altitude. Mais quand même, 2010-2014, ça a été des années fastes. Ça a été des années faciles. L'industrie mondiale du vélo avait le vent dans le dos. Alors naturellement, il y avait une croissance pour tout le monde de 35%. On en a profité, on a fait énormément de profits. Et c'est là que j'insiste, c'est à ce moment-là peut-être que je me suis engraissé et je suis devenu peut-être paresseux intellectuellement, physiquement. Et c'est des longs cycles. Hein. Vous savez, à un moment donné, comme un athlète, il y a des périodes de léthargie. Alors, je me suis assis sur le succès parce que j'analyse aujourd'hui comment on a pu tomber. Et on a eu un style de gestion grandiose. Alors, on s'est mis à engager du monde, on s'est mis à nommer des postes, on s'est mis écoutez, on allait faire des salons en Europe à l'exposition Eurobec. On pouvait amener 20 personnes. Il n'y avait plus de limite. On faisait des salons. Ça pouvait coûter 150 000 par année. C'est pas grave. Et en engageant beaucoup de monde, ça m'a comme tassé un peu. Et plus tu engages de monde, des fois, il y a des gens qui te disent, ben là, il faut que tu apprennes à déléguer. Mais j'ai délégué des choses qui sont sacrées pour moi, pour l'entrepreneur. Un entrepreneur fondateur, un gars de produit, il ne faut jamais déléguer entièrement le développement de produits. Il faut protéger le brand. Et c'est là que je me suis éloigné un petit peu. Alors là, on s'est mis à faire n'importe quoi. On s'est mis à faire des niaiseries. On s'est mis à faire des produits jolis, mais pas payants, ou des produits pas jolis. Et ça me fait penser, des fois, je dis ça au monde, c'est comme si vous êtes producteur de vin, puis à un moment donné, vous dites que le vin, c'est plus important. Mais on engage du monde, puis on a plein de monde. Puis là, ben là, plus il y a de monde, tout le monde invente des processus. Puis là, ben on complexifie l'entreprise. Puis là, on est en train de se perdre. Quand je disais tantôt, on est en train de perdre ce qu'on est. Louis Garneau, au départ, c'était l'innovation. Louis Garneau, au départ, c'était l'homme qui était à l'origine d'un produit de l'innovation. Il est en train de s'en aller de là. J'ai toujours eu un directeur général, donc à un moment donné, les dépenses se mettaient à galoper, c'est pas grave, on donnait des bonis de façon aléatoire. C'était une entreprise, je vous dirais, qui est devenue paresseuse, fofolle, qui perdait sa discipline et sa règle de base. On commençait à vendre à rabais. Alors, quand vous commencez à vendre avec des marges qui diminuent, mais là, tu cours après ton chiffre d'affaires, puis il y a des gens qui étaient rémunérés au boni. Bien, on a qui avaient l'intelligence de trouver une façon de faire des bonis, par exemple, d'acheter. La compagnie était très riche, avait beaucoup de liquidités. On avait des inventaires démentiels. On achetait beaucoup juste avant la fin de l'année financière, ce qui fait qu'on faisait des profits d'inventaire parce que les frais généraux étaient imputés, par exemple, à la réception de nos produits. Et ben ça faisait faire des bons chiffres juste avant la fin de l'année, puis ça donnait des bonis à ceux qui avaient organisé un peu ce système-là. On appelle ça une petite perte de contrôle, qui est devenue une grande perte de contrôle. Et quand ça s'est mis à mal aller, ben Béatrice est partie. Elle est partie en courant, la DG est partie en courant, alors que la première génération de DG que j'ai eue, c'est quelqu'un qui aurait jamais fait ça, qui serait resté, qui aurait fait le redressement. Et là, je me suis retrouvé sans directeur général, puis on parle, les premiers signes, ça a été 2017. Première année qu'on perd de l'argent, la directrice générale se sauve en courant, ça l'envoie un mauvais message. Écoutez, en 6 mois, là, je m'attaque à l'inventaire. En 6 mois, on diminue l'inventaire de 9 millions. Ça implique de vendre à rabais, vendre à perte, aller chercher de la liquidité. Là, on a des produits désuets, l'entrepôt est plein. Il y a des gens qui s'en vont, la banque commence à s'inquiéter, la marge de crédit, les limites commencent à baisser. Puis là, la tempête est commencée. Là. Alors, le marché, et là, on subit en même temps, qui a été le début de la catastrophe, deux clients qui font faillite. On était dans une période où l'industrie était dans un bas, l'industrie du vélo. Alors, un gros client américain qui s'appelait Performance, qui était notre plus gros client, fait faillite. Et on a un client en Angleterre qui était le plus gros à l'international, Evans Cyclery, fait faillite. Donc, on a un manque à gagner de 10-15 millions de ventes d'un shot. Mm. Les frais généraux sont élevés, tout le monde est là, les ventes vont pas bien. Et là, il a fallu pédaler en masse. Alors, vous savez, il y a des équipes dans une croissance fulgurante. Quand on imprime de l'argent, si l'équipe est pas forte, ça paraît pas. Mais si vous voulez voir la force d'une équipe, c'est dans une tempête, c'est là qu'on va voir ceux qui vont être capables de ramer avec la capitaine puis de prendre la direction, le contrôle du bateau. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé moteur fermé à un moment donné, tout seul dans ma cabine, tout le monde partait en courant, puis c'est correct. Je suis pas ici pour blâmer les gens, mais c'est pour dire tout ce qui peut arriver quand vous perdez le contrôle de l'entreprise, quand vous perdez des ventes, quand les marges ne sont plus là, quand tu as une équipe de vente qui te dit depuis 5 ans d'arrêter, tu ne peux pas augmenter les prix. Puis là, ben, l'organisation, tu te rends compte, ça devient une organisation de prix. Alors, c'est le prix, le prix, le prix. On demande les plus belles innovations. On demande le prix le plus bas de l'industrie. Alors, c'est facile pour l'équipe de vente. Et ça, ça rend des, ça fait des directeurs des ventes paresseux ou encore des représentants paresseux. Tu as le plus beau produit, tu le vends le moins cher. Sauf qu'on affectait l'image de marque, on affectait la rentabilité, puis on a grugé le trésor de guerre qu'on avait accumulé, toute l'équité de l'entreprise. Et à un moment donné, ben, écoutez, j'ai pensé faire faillite, puis j'ai pensé de carrément tout perdre. J'étais dans un grand désespoir.
Ouais, on va en parler un petit peu de ça, parce qu'en plus de ça, à ce moment-là, vous commencez à éprouver des problèmes de santé, un burn-out qui était caché, que vous cachiez même à votre famille, à vos proches, que vous dissimulez derrière un problème de glande thyroïde. Également, on voit à travers les années qu'il y a comme une chaise musicale qui a l'air de s'installer à l'intérieur de votre organisation au niveau de la gestion, des consultants externes qui rentrent. Il y a également eu de la famille qui a eu certains rôles importants à l'intérieur de l'organisation. Et ces gens-là, on a l'impression, en lisant votre livre, qu'ils mettent le blâme sur vous, qui disent que vous êtes le problème. Allez vous reposer, Monsieur Garneau, on s'occupe de tout ça. Et ultimement, on voit qu'en 2019, vous écrivez une lettre que je cite, qu'on est capable de voir à l'intérieur du livre, que vous appelez un suicide entrepreneurial, littéralement, dans laquelle vous décidez finalement de délaisser l'entreprise totalement. On dirait que les gens qui étaient dans une position de gestion vous ont poussé à vous dire que vous étiez le problème. Quels ont été les éléments qui vous ont poussé finalement à prendre cette décision-là, à vouloir écrire cette lettre?
Ben, écoutez, c'est l'usure. Moi, j'ai eu la mauvaise idée premièrement, quand vous êtes dans la difficulté financière, vous n'avez jamais connu ça, c'est un apprentissage. Gérer une entreprise qui va mal, je n'ai jamais connu ça. Et j'ai eu le réflexe de demander à mon ancien comptable retraité de venir m'aider, et quelqu'un qui était dans la vérification. Et là, à ce moment-là, l'entreprise, c'est une espèce de 747 qui est en difficulté, puis faut atterrir l'appareil. Et là, tout le monde a des... Lorsque les consultants arrivent, parce que là, il y a eu un consultant, un deuxième, puis là, mon fameux comptable, à un moment donné, il me dit... j'ai rencontré quelqu'un d'une firme de communication excessivement importante au Québec, puis il me dit, bon, je sais comment redresser ça, là. Ça a l'air d'être un problème d'image. Alors là, tout le monde se met. Écoutez ça, là. Puis ça, c'est important que les entrepreneurs nous écoutent, là. Tous les charlatans embarquent en même temps, puis ils ont tout. C'est comme les gérants d'estrade, là. On devrait, un peu comme la COVID, là, on devrait faire ci, on devrait faire ça, on devrait arrêter, on devrait avoir des tests, on devrait mettre de masque, on devrait pas mettre de masque. Et là, moi, j'écoute ça, là, puis je suis en train de devenir carrément fou. Et le coupable, ben, c'est ça. C'est le premier ministre, le premier ministre, c'est de sa faute, il a pas réagi assez. Ben, et là, tout revient sur le président. Quand t'es président, quand ça va bien, c'est souvent c'est l'équipe. Quand ça va mal, c'est le président, puis c'est toi le pas bon. Alors, j'avais début de la soixantaine, on commençait à me dire que je suis dépassé, je comprends plus l'entreprise, mes enfants essayaient de rentrer, les consultants voulaient rentrer, voulaient facturer, l'autre firme de communication rentre. Ah, puis là, elle dit, écoute, on va changer ton logo. En changeant le logo, puis on a une nouvelle campagne qui va coûter tant de millions. Écoute, un projet qui devait coûter 200 000 a fini par coûter 1 million chez une firme de communication pour me retrouver à la fin avec un logo qui ressemblait au logo Garneau du Cégep Garneau. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir le livre, mais ça a été un cauchemar. Alors, imaginez-vous, moi, j'allais à ces meetings-là, j'étais dans un burn-out que je cachais. Hein, vous savez que les athlètes cachent la douleur en faisant le poker face. On est des spécialistes, j'ai appris ça toute ma vie. Et je m'étais inventé une petite maladie, puis je gardais mon sourire parce que je voulais pas que les troupes, fallait pas que énerver les troupes. On était en période de guerre, il fallait que le général soit de bonne humeur, puis on continue. Alors je mettais mon masque de bonne humeur, puis quand je rentrais chez nous ou quand je rentrais dans mon bureau, j'allais m'allonger 15 minutes dans ma grande chaise pour essayer de reprendre mon souffle. Et j'étais complètement détruit mentalement. C'est la pire douleur que j'ai connue, pire que les Jeux olympiques, pire que n'importe quelle compétition. Et là, j'ai dit, il fallait faire survivre cette entreprise-là. je mettais en péril 200, même près de 500 emplois, parce qu'on parle de l'usine au Mexique, on parle de notre bureau de la Chine, on parle du bureau de Saint-Augustin, ici au Vermont. Et je me sentais sous pression de ma famille que j'allais détruire, l'héritage pour mes enfants. J'ai toujours voulu que les enfants soient dans l'entreprise familiale, eux aussi. Alors, imaginez-vous, et le bordel, je le dis aujourd'hui, vient de des consultants sans expérience qui se sont mêlés de mes affaires. Et quand j'ai accepté de faire mon testament en passant entrepreneurial, qui ressemblait à un suicide, mais c'était testament entrepreneurial, c'était une lettre que j'écrivais à mes enfants juste avant Noël en leur disant que je leur laissais la place, puis que je leur souhaitais bonne chance, puis que j'avais comme accepté que les consultants finalement allaient diriger l'entreprise, alors que c'était deux retraités qui n'avaient aucune expérience manufacturière ou de commerce électronique ou d'entreprise. Et là, je suis parti en vacances, je suis allé en Floride, je suis allé faire du vélo, parce que ce qui m'a sauvé pendant tout mon burn-out, c'est de faire du sport, faire du vélo, me reposer. Ma blonde a été un support incroyable. Mes parents, j'en parlais pas parce que je voulais pas les fatiguer avec ça, mais ma blonde a été d'un support incroyable parce que je voulais carrément rester à terre souvent puis tout abandonner. Et là, je m'en vais en Floride. Je reçois un téléphone d'un ancien coureur que j'avais couru avec lui en Abitibi, autour d'Abitibi. Il s'appelle Jonathan Copert. Voyons, ça fait presque 30 ans, il ne m'a pas appelé, ou 40 ans. On a couru ensemble en 1976. Alors, il dit, écoute, Louis, je suis en Floride, es-tu là? J'ai dit, oui, je suis là. Veux-tu rouler avec moi ce matin? Oui, écoute, il va y avoir un ami qui aimerait rouler avec toi. Il s'appelle Marcel Zielinski. Mais oui, j'ai dit, pas de problème. Mais il a dit, il y a 86 ans, j'ai dit, pas de problème, on ira moins vite. Puis il dit, il veut te voir, puis il veut absolument rouler avec toi. Ah, OK. J'ai dit, alors, j'arrive sur place, puis il m'avait dit, vite fait, il dit, c'est un survivant de l'Holocauste. Le vrai Holocauste, là, le camp d'extermination des Juifs. Il dit, oh, oui. Il dit, en tout cas, il va peut-être te raconter son histoire. Alors, on est allé rouler. Et après la randonnée, je l'ai invité à venir prendre un breuvage à la maison. Et là, j'ai vu sur son bras gauche qu'il y avait un numéro. C'était son numéro de prisonnier. Donc là,
Le B1442.
Le B14442. Exactement. Et là, j'ai dit, Marcel, j'ai dit, c'est ton numéro, t'as fait le camp de concentration, puis parle-moi-en donc un peu, on prend un café, puis ça lui a fait du bien. Il m'a raconté l'histoire que son père a été tué devant lui à l'âge de 10 ans, que sa mère avait été séparée dans le camp de concentration de Auschwitz, et que lui avait été engagé à 10 ans par les Allemands parce qu'il était habile de ses mains à faire des vêtements. Heureusement, il a été libéré en 1945, le 27 juillet. On a fêté justement dernièrement la libération, c'est 77e cette année. Et je l'écoutais là, puis à un moment donné j'ai arrêté de parler, j'ai dit, Marcel, t'es mon idole. Ben, il dit, voyons, pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai dit, Marcel, je vis quelque chose de très très difficile qui n'a rien à voir avec la souffrance que tu as eue, mais tu m'inspires. Puis, je te raconterai plus tard. J'ai une compagnie, c'est un peu difficile, c'est ainsi, j'ai des problèmes familiaux. J'ai dit, Marcel, est-ce que je pourrais me faire tatouer ton numéro de prisonnier? Il me regarde. Il a arrêté de parler quelques secondes, j'avoue. Il dit, oui, c'est un honneur. J'ai dit, j'ai besoin de ça. Puis, j'ai dit, pour moi, t'es mon idole. Puis j'aimerais qu'on soit des amis de vie. Alors, ça a duré quand même un certain temps. Là, je fais un résumé de l'histoire. Et on a accepté tous les deux qu'on serait des amis de vie. Je lui ai dit que j'allais aller me faire tatouer. Il est parti. J'ai réussi à rouler avec une autre fois après. Et l'après-midi, j'ai dit à mon épouse, je m'en vais me faire tatouer au village. Le numéro de Marcel, je lui explique. Puis elle dit, oh, t'es émotif, là. J'ai dit, non, Monique, j'ai dit, super important. J'ai dit, j'ai besoin d'être ça, puis j'ai dit, j'ai besoin de me faire injecter son énergie, sa force et surtout sa résilience. Alors, je suis allé me faire tatouer et je vous le dis, là, pendant qu'il imprimait les chiffres et la lettre B14442, j'ai senti une énergie incroyable entrer dans mon système. Bien entendu, c'est une image, mais ça rentrait dans mon cerveau. Et ça me faisait penser, quand on était jeune, on écoutait des fois les frères de sang, là, puis les deux garçons se coupaient et ils mélangeaient leur sang pour dire « on va être des amis ». Et quand je suis revenu de Floride, j'étais plein d'énergie, je m'étais reposé. J'avais rencontré Marcel, je m'étais imprégné de sa force et de sa résilience. Première affaire que j'ai faite, j'ai mis tout le monde dehors chez nous en arrivant, les consultants. J'ai fait un ménage, j'ai appelé des spécialistes, Raymond Chabot, spécialiste en redressement d'entreprise. J'ai rencontré Jean Chiasson, qui est un ami personnel que j'ai joué au hockey. Je pensais tout le temps que c'était juste pour régler des faillites, mais ils sont là pour redresser des entreprises. Et ben là, on a fait un diagnostic, puis on a travaillé sur les bonnes choses. Ils m'ont expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Fallait-tu que je réinjecte encore des millions de dollars? On en avait perdu beaucoup. Est-ce que je faisais faillite? Est-ce que je faisais un avis d'intention, une proposition aux créanciers? Et on a décidé de faire une proposition. On a passé à travers. On a redressé l'entreprise. Et à partir de là, j'ai eu une énergie qui était incroyable, surhumaine. Et quand je vous parle, des fois, vous m'avez fait parler tantôt d'une chose mythique, l'accident d'Alexandre Morin, la vie après la mort. Moi, je prétends que la rencontre de Marcel Zelensky est télécommandée. Alors, c'est que je dis des fois que ça... On dit des fois, dans notre vie, on rencontre des gens, il y a des gens qui sont sur notre chemin pour des raisons X. J'aurais pu rencontrer Marcel et m'arrêter à une seule randonnée de vélo avec un vieillard. Mais il y a eu une connexion. Il y a eu une connexion qui était spirituelle. Il y a eu une connexion émotive. Et je suis convaincu qu'il fallait que je rencontre cet homme-là. Et cet homme-là a été... C'était une rencontre déterminante. Il y a des gens qui lisent mon livre et disent... J'ai lu ton livre, ça m'a donné l'énergie, ça m'a donné l'idée de redresser mon entreprise, parce que des gars comme Louis Garneau qui ont des problèmes, ça existe partout, là. Surtout durant la COVID, il y a des entreprises qui tombent, il y a des entreprises qui vont tomber. On a vu Aldo, on a vu Lowley, on a vu Boutler, on a vu Garneau, on a vu Peter Simons qui a eu une période difficile. Donc, il y a eu un changement dans notre économie qui a été influencé par le COVID, par le commerce électronique, par le vieillissement des entreprises, puis etc. Donc, j'ai eu la chance d'être bien conseillé. On a parti un redressement majeur et c'est essentiellement, c'était, puis j'aime ça le mettre aussi simple que ça parce que après c'est facile, pendant tu vois rien. Pendant la tempête, là, il y avait tellement de fumée que je voyais pas aussi bien qu'à la fin, mais c'était pas compliqué. On a remercié plus de la moitié de nos employés. Il y avait trop de monde. La banque me l'avait obligé. En passant, ça a été très difficile. J'ai trouvé ça extrêmement triste pour ceux qui perdaient leur emploi. Mais la banque a dit, c'est ça où on ferme ta marge de crédit. On a arrêté de produire au Québec. Ça, c'était déjà commencé. On perdait 2,5 millions la dernière année et on avait... En parallèle, la production au Mexique, la production au Québec. Donc, on avait tout le monde en double pour faire la même production à des tarifs très, très coûteux. On avait, après ça, j'avais acheté en 2018 parce qu'on avait perdu des ventes. J'avais quand même le réflexe d'aller rechercher d'autres ventes. J'ai acheté mon compétiteur à Vancouver, Sogoy, qui appartenait à Dorel, la compagnie publique. Compagnie non rentable, mais je me disais, si on absorbe toutes les ventes de Sogoy et qu'on réussit à l'intégrer à Garneau à Québec, mais on va avoir une économie de 76 employés. Alors, encore là, avec les consultants, je me battais. Eux autres disaient, non, faut que tu gardes tout le monde à Vancouver. Donc, j'ai fini par le faire. J'ai ramené tout le monde. On a absorbé Sogoy. On a augmenté les prix de 10 % parce qu'on mettait une pression sur l'entreprise. On peut pas augmenter les prix parce qu'on vendait juste 9,99, 19,99, 29,99. Si vous augmentez pas vos prix pendant 5 ans, 2 % par année, c'est un manque à gagner de 10 % sur la marge brute. Alors, ça a été un autre piège à rat. Et finalement, ben, on a éliminé tous les produits qui n'étaient pas payants. On a arrêté de faire des manteaux de plein air, on a arrêté de faire du patin de vitesse, on a arrêté de faire des vêtements qui étaient pas jolis, on a arrêté de faire des vêtements qui se vendaient pas, on a arrêté de faire des produits sans valeur ajoutée et on est revenu à l'innovation. Alors, aussi simple que ça, aujourd'hui, pendant que je vous parle, l'entreprise est revenue à profit. On s'est rebâti une équipe. Alors, c'est important que tout le monde comprenne que la meilleure équipe va gagner. Si vous allez au Tour de France et vous êtes un bon pédaleux, si vous n'avez pas d'équipe, vous allez perdre. Ça prend des coureurs pour le plat, pour la montagne, ça prend des mécaniciens, des masseurs, des médecins, des psychologues, ça prend tout dans une équipe. Et ça n'en prend pas trop, juste assez. Et garder les choses simples. Moi, je dis, il faut absolument qu'une entreprise garde un système simple. Et j'appelle ça aujourd'hui, on parle d'entreprise agile, flexible, rapide et soyez le plus rapide quand vous voulez aller du point A au point B. Alors que souvent, dans une organisation, quand il y a trop de monde, les gens inventent des systèmes parce qu'ils viennent à un moment donné qui ont moins d'ouvrages. Fait que là, l'être humain aime complexifier les choses parce que ça rend important des fois le statut, la profession. Mais l'intelligence est dans la simplicité. Si vous êtes capable de faire des choses simples, extraordinaires, vous allez réussir aussi. Alors, on est reparti sur une nouvelle ère d'aller. On a créé la nouvelle entreprise LG 5.0. C'est plus que 2.0. Je voulais que ça soit 5. Mes garçons sont partis de l'entreprise, pas pour des mauvaises choses. Édouard avait commencé à démarrer son entreprise de vêtements de chasse et pêche. Il s'appelle Connect. Édouard est allé au Dragon dernièrement. Édouard a une entreprise à succès. Encore là, il vit avec le salaire de sa blonde qui est infirmière. Il fait tout ce qu'il peut faire dans l'entreprise pour sauver de l'argent. Il travaille l'innovation. Il fait exactement qu'est-ce que je fais. William essaie de démarrer une entreprise de son côté en informatique. William a eu la chance d'avoir une belle jolie fille. Il est papa. C'est une belle réussite de vie, ça aussi, avec sa copine. Victoria a dit, moi, je suis trop gâté. Je m'en vais à Montréal dans un petit appartement devant le cinéma Beaubien. Je m'en vais travailler pour des designers. Ça va être formidable. Elle a été très déçue. Elle a fait ça un an parce qu'on lui faisait faire un peu n'importe quelle sorte de job qu'elle aimait pas. Elle pensait qu'aller travailler des designers, du jour au lendemain, elle était l'assistante du designer. Et elle a décidé dernièrement, elle est retournée à l'université faire un bac en design de mode à l'Université du Québec à Montréal. Donc, on s'est tous replacés à l'heure actuelle. L'harmonie est revenue. On est dans des domaines différents. J'ai toujours rêvé que les enfants allaient prendre la relève du père. Je disais toujours, par exemple, 70 % des entreprises ne se rendent pas à la deuxième génération, 90 ne se rendent pas à la troisième génération. Et j'ai essayé, mes garçons, écoutez, ils ont fait de la course de vélo comme moi. William est allé au championnat du monde avec l'équipe du Canada en Afrique du Sud. William et Edouard sont allés étudier à Burlington en affaires, ils ont appris l'anglais. On était tout organisé, puis on l'a échappé un petit peu à la dernière minute dans la période de crise où ça l'a affecté les membres de la famille, les orientations de l'entreprise. Ça a créé des conflits parce que quand il y a un conflit, puis on essaye de transférer une entreprise qui est en difficulté financière, ben je pense que c'est pas le temps de transférer ça à ses enfants. Et c'est ce que les consultants auraient dû avoir la maturité de me conseiller. Et c'est pas le temps non plus, dans une entreprise en difficulté, de prendre le président, de dire « tout ce qui arrive, c'est de ta faute, c'est sûr, t'es président », et de le mettre de côté. Aujourd'hui, quand j'ai travaillé avec Raymond Chabot, il disait « on ne fait jamais ça, on faisait ça il y a 40 ans, on mettait le président dehors. Aujourd'hui, on travaille avec le fondateur, celui qui a créé l'entreprise, on l'aide dans ses parties faibles, on lui donne un diagnostic, on lui donne le support technique, le support financier ». Et là, ben, écoutez, on s'est redressé, on est allé chercher du financement. Ça n'a pas été facile. J'ai réussi à rencontrer Pierre Simard de Champlain Capital, un garçon extraordinaire qui a acheté aussi vêtements Canuck. Alors, j'ai réussi à garder la majorité de mon entreprise. Écoutez, je suis revenu dans le bonheur. J'ai eu 36 ans de bonheur, mais j'ai eu 36 ans de malheur. Ça a été infernale. Ça a été la période la plus douloureuse de ma vie. J'ai même perdu mon père pendant la période de cette période de calvaire-là. Alors, tout ce que vous pouvez imaginer, je l'ai connu. Perte financière, perte de son père, ouais. Perte d'amis, etc.
C'est impressionnant de. Il faut le mentionner à l'audience aujourd'hui parce que juste avant la pandémie, vous accusiez une dette de plus de 30 millions de dollars qui s'était accumulée au cours des dernières années. Nous dire aujourd'hui que un petit peu plus que 2 ans plus tard maintenant, ou à peu près 2 ans plus tard, vous avez été capable de redresser l'organisation, de la faire travailler à profit, ça a dû être un changement majeur. Ça a été des actions qui ont dû être difficiles, mais qui, au final, vous devez être fier. Et vous dites également dans le livre que vous pensez amener l'entreprise publique d'ici 2026. C'est toujours d'actualité?
Absolument. Pour plusieurs raisons. Premièrement, aller public, c'est un moyen de croissance. Puis peut-être avant, pour encourager les gens aussi. Ouais. Moi, quand j'étais coureur, il m'arrivait je faisais toujours les sélections de l'équipe canadienne pour les championnats du monde ou les Jeux du Commonwealth, les Jeux universitaires ou les Jeux olympiques. Et les entraîneurs disaient, on va prendre Garneau parce qu'on est certain qu'il y en a au moins un qui va terminer son épreuve. Et ça, c'est ma marque de commerce. Ne jamais abandonner. J'avais mes bracelets. J'ai toujours eu des bracelets, ne jamais abandonner, que je me suis fait faire. Ma première biographie, ça s'appelait « Ne jamais abandonner ». Et je vous dirais que cette qualité-là, m'a servi énormément dans le redressement de l'entreprise parce que je vous dirais que normalement, j'aurais abandonné parce que j'aurais pu dire « Écoute, c'est fini, je ne serais pas capable de relever la dette, on ne fera plus d'argent. » Alors que je dis aux gens, vous allez être surpris quand vous abandonnez pas, il y a tout le temps une belle réponse au bout de ça qui va vous arriver. Il y a tout le temps un bel événement et c'est plus que surprenant. C'est impossible que quelqu'un qui tient fort son bateau ne soit pas capable de le ramener. Il y a une petite lumière au fond du tunnel et j'ai été la chercher. Mais ça a été... Et il y a des journées que c'était fini. Là. Et ça m'arrivait même dans les courses de vélo. Je disais, après 3 tours, j'ai dit, moi, j'arrête au prochain tour. C'est fini parce que je disais, j'ai une mauvaise journée. Mais l'acharnement, je vous dirais raisonnable, là, parce qu'il faut être quand même d'être bien conseillé, puis de tenir le coup. Je répète, vous allez être surpris des résultats qui vont arriver. À ceux qui vivent des difficultés, vous allez voir qu'en être tenace, vous allez replacer les anomalies de l'entreprise ou de votre vie parce que vous tenez à des principes et vous voulez que ça marche. La volonté, c'est tellement fort. Ça peut, comme ma mère disait, ça peut tasser des montagnes. Ben, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis oui, j'ai tombé, mais je suis fier aujourd'hui de m'avoir redressé. Et des fois, je me dis, maudit, on a perdu beaucoup d'argent. Vous savez, faire de l'argent, c'est une recette mécanique. Tu fais un produit, tu engages du monde, tu mets une équipe, tu mets du marketing, tu mets du cash. C'est correct. Perdre la santé, je vais vous dire, c'est plus important qu'une entreprise, c'est plus important que l'argent, la santé mentale, la santé physique. Ne jouez pas avec ça. Et je me suis fait prendre à un moment donné, là, je me pensais surhumain, mais la santé, quand elle n'est plus là, elle n'est plus là. Alors, il y a un vieux monsieur qui me disait... Le trésor ne suit pas le corbillard. Et ça a été pareil pour Steve Jobs. Il aurait payé des milliards pour avoir la santé. Il a essayé. Il est parti de mémoire à 56 ans, un garçon plein de talent. Donc, il faut faire attention aussi. Il faut avoir l'intelligence de ne pas se brûler. Mais quand on est brûlé, on perd l'intelligence aussi. On perd le jugement. On perd d'où l'importance d'être bien accompagné avec du monde honnête et gentil autour de soi, etc. Là.
Monsieur Garneau, c'est une histoire fantastique. On le redit aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Allez vous procurer le livre. Vous allez voir, c'est une lecture sensiblement rapide, inspirante, qui est franche, qui est honnête, qui démontre les hauts, les bas d'une entreprise, les hauts, les bas également d'une histoire familiale, j'ai envie de dire, parce que la famille est très présente à l'intérieur de votre livre. Une force de résilience. Pour tout entrepreneur qui écoute le podcast aujourd'hui, je vous invite à aller lire le livre. Monsieur Garneau, Merci beaucoup. Ça a été un honneur pour moi de vous interviewer aujourd'hui sur le podcast Hypercroissance. Je pense que votre histoire va pouvoir en inspirer plus d'un. Donc, je vous remercie pour votre temps et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Les histoires impressionnantes, c'est pas ce qui manque sur le podcast Hypercroissance. D'ailleurs, je vous invite tous à partager notre balado en grand nombre afin que maximum d'entrepreneurs francophones puissent suivre des histoires qui, espérons-le, les aideront dans leur cheminement. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de superbes idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.